BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, jusqu'à 18h, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette séance, vous ne raterez rien, il y a une valeur que vous ne pouvez pas rater d'ailleurs, c'est une baisse de plus de 12% et cette valeur ne nous a jamais habitués ou rarement à des baisses de 12%, il s'agit d'Airbus. Airbus recule, qui revoit la baisse. Airbus, ses prévisions de livraison, ça, les marchés n'aiment pas du tout. On en parlera, bien sûr. Ils revoient du coup aussi à la baisse leurs prévisions de résultats opérationnels, de cash. On va en parler beaucoup avec nos experts tout au long de l'après-midi. Et sur ce point sur Airbus, Eric Blaine veut parler cash. Il sera avec nous dans la bourse cash. Ce sera dans à peine 8-9 minutes. On verra aussi sur Eurofins, qui en revanche, après sa très forte baisse d'hier, reprend un peu de poil de la bête et progresse aujourd'hui. Eurofins qui dément toutes les accusations proférées hier. On en parlera également, bien évidemment. Mais d'abord, il est 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris. Vous entendez, la cloche retentit, c'est Wall Street qui nous appelle. L'ouverture des marchés américains avec nos experts USA Today. Ils sont là, ils sont en place. John Plassard, bonjour John, depuis au bureau de Mirabeau. Étienne Braque, depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne. Ravi aussi de vous retrouver, Étienne. Comment Wall Street se réveille-t-il ?
Eh bien écoutez, vous avez une ouverture en ordre dispersé comme ces derniers jours, avec néanmoins un indice Nasdaq qui se reprend avec un gain de 0,5% après avoir perdu 1% hier à la clôture. 1%, c'était la plus forte baisse du Nasdaq de composite depuis avril, figurez-vous. Un Nasdaq qui se rapproche timidement des 17 600 points, 17 582 points à l'instant. Le Dow Jones qui a bien performé depuis une petite semaine, 7,016% à 39 350 points, quand le S&P est toujours proche de son record historique à la porte des 5 500 points grâce à une hausse de 0,1%. À noter que l'obligataire aux États-Unis continue de se stabiliser avec un 10 ans américain qui s'échange à 85 quand le 2 ans de son côté est à 4,73. Et puis sur le front des devises, l'euro-dollar baisse pas mal et met en danger les 1,0704 à l'instant, avant bien sûr des chiffres d'inflation très importants qui seront publiés aux États-Unis vendredi. En attendant, vous avez le secteur technologique qui tente de se reprendre après une petite pause hier, notamment la discussion Nvidia qui a perdu 6%, ce qui est quand même assez rare pour être souligné.
Effectivement, on va revenir effectivement sur Nvidia et se poser la question tout au long de l'après-midi. Est-ce qu'on a vraiment reconstitué un potentiel de hausse ? On en parlera dans un instant. D'abord, John, les indicateurs du jour. Alors, Étienne le disait, on suivra surtout la fin de semaine, mais aujourd'hui, on a des indicateurs intermédiaires, le Philly Fed et l'indice du prix des maisons aux États-Unis.
Exactement, Guillaume. Et puis, le Philly Fed, c'est très important de le noter parce que c'est la statistique manufacturière de la région de Philadelphie qui est considérée comme une région qui reflète les États-Unis. Ben, tenez-vous bien, on est à 2,9 points. C'est un plus haut depuis juin 2022. Donc, on voit que ça remonte. Donc, apparemment, l'activité manufacturière va bien. D'un autre côté, au niveau du prix des maisons, on a eu le Case-Shiller. C'est une moyenne sur 20 ville aux États-Unis, eh bien la hausse, tenez-vous bien, de 7,2% au niveau mensuel. Vous allez me dire c'est énorme, mais c'est en baisse par rapport au mois précédent, puisque c'était à 7,5%. On se situe proche des niveaux de novembre 2022, donc les maisons aux États-Unis, le prix des maisons est quand même assez élevé et la progression aussi.
Effectivement. On reviendra bien sûr sur les indicateurs tout au long de l'après-midi. On va suivre de très très près les évolutions obligataires. Mais d'abord, Étienne, donc c'est la curiosité de ce milieu de semaine, quand même début de semaine, on n'est que mardi. Que fait Nvidia après trois baisses d'affilée ? Est-ce que Nvidia rebondit aujourd'hui ?
En effet, plus 2%, ce qui permet notamment au Nasdaq de rebondir. Plus 2%, une petite reprise, John Plassard, après le moins 6% d'hier soir, c'était la plus forte baisse d'Nvidia depuis avril dernier.
Ouais, impressionnant. Les chiffres à chaque fois avec Nvidia sont impressionnants. Il a suffi d'une étincelle, je crois que c'est même une chanson de Johnny Hallyday, pour que les titres commencent d'Nvidia à être vendus. Et cette étincelle, c'est le Financial Times ce week-end qui a rappelé que le cofondateur de Nvidia aurait vendu 95 millions de dollars d'actions de ses propres actions. Mais vous me direz, pour quelqu'un qui a plusieurs milliards de dollars d'actions à Nvidia, c'est pas grand chose, 95 millions, mais la sanction a été très lourde. En à peine trois séances, ça a été environ 400 milliards de dollars qui ont été effacés de capitalisation boursière sur les marchés financiers. C'est la même chose que ExxonMobil, par exemple, qui est la 14e entreprise du S&P 500 en termes de capitalisation boursière. Mais on rappelle quand même des choses qu'il faut rappeler, c'est que après cet effondrement, on voit quand même que Nvidia a quand même progressé depuis le début de l'année de 140%, avec un rendement incroyable de près de 1000% depuis un creux d'octobre 2022. Je vous parle de 2022, pas de 2002, 2022. Et on voit que évidemment la montée en puissance de Nvidia correspond avec l'attrait pour l'intelligence artificielle. Et puis la dernière, juste la toute dernière statistique qu'il faut quand même rappeler, quand certains appellent la montée, la progression d'NVIDIA ou comparent ça avec une bulle, eh bien la société a quand même enregistré lors de la publication des résultats du premier trimestre une hausse de 628% de ses bénéfices en glissement annuel. 628%. Donc ça montre une certaine capacité à générer des bénéfices et évidemment tout le monde regarde les prochains résultats qui vont être publiés dans un peu moins d'un mois.
Et ce qui est incroyable, c'est que sur les derniers trimestres, Nvidia, plus Nvidia progressait, plus malgré tout sa valorisation avait tendance à fondre parce que les résultats allaient plus vite que la hausse du titre en bourse. Incroyable Nvidia, bon, qui aujourd'hui donc tente un rebond après trois baisses d'affilée. On va y revenir bien sûr avec nos experts. Et puis on va aussi parler politique. On est à 133 jours, John, on les compte, hein, de cette présidentielle américaine. Et alors vous vous mouillez aujourd'hui, John. Vous voulez nous expliquer pourquoi Donald Trump pourrait gagner le débat de jeudi soir face à Joe Biden.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça aux États-Unis le phénomène du premier débat des présidentielles. C'est vraiment un nom qui est commun aux États-Unis. On y revient beaucoup. Pourquoi ? Parce que historiquement, lors du premier débat de la campagne de réélection, c'est-à-dire après-demain, jeudi, eh bien, le président, c'est-à-dire Joe Biden, après 4 années de règne, se retrouve face à un adversaire considéré comme affamé. Et en l'occurrence, ce serait Donald Trump, qui attend ce moment depuis longtemps. Et historiquement, cela conduit depuis des années au président sortant à perdre l'élection ou à faire moins bien que celui contre qui il est en face. On se souvient notamment que le président Jimmy Carter avait largement été perçu comme perdant face à son premier et unique d'ailleurs débat face à Ronald Reagan en 1980. Et donc les politologues estiment que jeudi, même avant le débat, eh bien Joe Biden a de fortes chances de perdre le premier débat. Mais n'oublions pas qu'il va y en avoir un deuxième. Ça, c'est autre chose.
Effectivement. Wall Street vient d'ouvrir, on le rappelle, après 8 minutes de cotation. On progresse, plus 0,1% aussi bien sur le S&P que sur le Nasdaq. Et Étienne, on va regarder une valeur qui souffre beaucoup depuis le début de l'année, encore des déboires d'ailleurs récents pour Boeing. Eh bien, Boeing ne fait pas l'actualité que pour les déboires de ses appareils. Aujourd'hui, il y a une autre actualité qui anime cette valeur.
En effet, avec les informations de Bloomberg qui évoquent que Boeing a pendant un temps réfléchi à faire une OPA sur Spirit AeroSystems. Alors on le rappelle, John Plassard, c'est un sous-traitant très important de Boeing qui est notamment spécialisé dans toutes les infrastructures métalliques que l'on retrouve dans les avions.
Oui, et puis on avait notamment accusé, certains avaient accusé Spirit AeroSystems d'avoir été à l'origine de certains déboires de Boeing. Eh bien, Boeing aurait proposé $35 par action pour acquérir Spirit Aerospace dans le cadre d'une transaction financière essentiellement par l'émission de capital. Alors, c'est une déception pour Spirit AeroSystems et pour les actionnaires, mais il se dirait que l'offre de Boeing, c'est-à-dire en émission de capital au lieu de cash, eh bien, serait pour préserver les liquidités de Boeing qui potentiellement pourrait être face à d'autres procès. Donc on va voir comment ça va se ficeler. C'est pas encore fait, c'est pas encore confirmé.
Effectivement, ce titre Boeing aujourd'hui recule en tout cas d'1,3%. Puis on n'a peut-être pas encore assez parlé tech. Et généralement, on en parle beaucoup de la tech. Il faut qu'on se rattrape tout de suite, John. On va parler notamment d'Apple et Meta. Meta qui progresse de 0,3%, même si Apple a rejeté l'offre de Meta d'intégrer son intelligence artificielle dans les iPhones.
Tout à fait, Guillaume, on en parlait hier. Apparemment, il y aurait eu un rapprochement entre Apple qui aurait voulu utiliser l'intelligence artificielle de Meta pour ne pas être trop dépendant de Microsoft et de ChatGPT. Eh bien, tenez-vous bien, ça aurait été démenti. Ce rapprochement qui aurait pu avoir lieu, eh bien, c'était apparemment une rumeur il y a plusieurs mois. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'actualité. Mais oui, tous les journaux américains en ont fait leur chou gras hier.
Effectivement. Si vous avez des questions, vous tous qui nous suivez sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. Tout à l'heure, Julie Cohen-Horton et ses experts dans Culture Bourse, 10 minutes à peine nous séparent de Culture Bourse, vous répondront vos questions en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi ou encore à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. On reste dans l'univers de la tech. Cette fois, Étienne, plutôt sous l'angle juridique et réglementaire.
Avec hier, souvenez-vous, Apple qui était dans le viseur de la Commission européenne par rapport à son magasin d'applications. Et aujourd'hui, c'est un autre géant de la tech, Microsoft, qui est dans le viseur de l'Union européenne par rapport notamment à la suite Office. Mine de rien, ça fait bouger légèrement le titre, John Plassard, puisque Microsoft cède 0,2% alors que les six autres magnifiques, elles, sont dans le vert.
Mais oui, c'est la pression sur les grosses tech américaines. Donc vous avez la Commission européenne aujourd'hui qui accuse Microsoft d'avoir intégré illégalement, c'est eux qui le disent, son application de messagerie et de vidéo qui s'appelle Teams, sur la suite bureautique Office. Et note aussi, la Commission européenne note que les récentes mesures prises par Microsoft ne sont pas assez efficaces. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans un deuxième temps? Eh bien, la Commission européenne devrait menacer Microsoft d'une amende qui pourrait être une amende de plusieurs milliards de dollars, pardon. On va voir ce que va répondre exactement Microsoft dans les heures ou les jours qui suivent.
Effectivement, merci beaucoup. John Plassard, USA Today, en direct chaque jour avec nous pour l'ouverture des marchés US depuis vos bureaux, John, de Mirabeau. Bon après-midi. Étienne Braque aussi, merci Étienne, qui nous accompagne depuis la tour Euronext. Un coup d'œil quand même, on est à 5 jours maintenant des législatives. À cet écart de taux entre la France et l'Allemagne, il est stable. On est vraiment sur une stabilisation depuis maintenant plusieurs jours. 71 points, c'est ce qui sépare aujourd'hui l'OAT, le 10 ans français, du 10 ans allemand. Bon, voilà, signe que le marché reste vigilant. Hein. 71 points, c'est pas neutre. Le marché reste vigilant, mais on est pour l'instant pas encore du tout dans l'incendie. On en parlera, on anticipera aussi les possibles effets à venir de ces législatives avec nos experts cet après-midi. En tout cas, le CAC 40 souffre énormément à cause d'Airbus aujourd'hui. C'est Airbus qui signe le plus fort repli du CAC à moins 12%. On va aussi beaucoup en parler. En attendant, 15h43, la bourse cash. Eric Blaine nous accompagne, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Eric, vous venez rendre justice, votre verdict est-il clair?
Oui, il est clair.
Pour vous, et je découvre en même temps que nos auditeurs votre verdict, pour vous, Airbus pique aujourd'hui du nez en bourse, on le disait, moins 12%, c'est donc peut-être, alors qu'Airbus pique du nez, le bon moment pour monter à bord. Tel est votre verdict, vous l'assumez?
Absolument, je l'assume.
Vous êtes gonflé quand même. Non mais franchement, Eric, Airbus abaisse ses objectifs de livraison. Airbus abaisse ses objectifs de résultats opérationnels. Airbus abaisse ses objectifs de cash. Vous êtes le steward qui dit aux passagers en attendant, ben voilà, welcome on board, il faut monter à bord alors que l'avion est en train de piquer du nez. Est-ce que vous n'êtes pas contre-temps là-haut?
Ouais, Airbus pique du nez, on perd 12% aujourd'hui et je pense que c'est de notre côté, nous en profitons pour monter à bord et renforcer les positions. Hein. C'est clair que Airbus nous annonce, et c'était pas nouveau, on nous avait déjà dit hein, qu'il manquait de composants essentiels, qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Bon, donc ça l'amène à faire un profit warning sensible, hein, puisqu'il abaisse ses révisions de façon importante de son résultat d'exploitation à 5,5 milliards contre une attente entre 6,5 et 7 milliards. Et donc, il annonce qu'il manque donc dans la chaîne de provisionnement des livraisons sur les moteurs, sur les aérostructures et puis sur les équipements de cabine. Donc, effectivement, il revoit à la baisse ses objectifs de livraison pour l'année, donc à 770 avions contre 800. Et l'objectif, en fait, de produire 75 monocouloirs par mois d'un 320 est repoussé non plus à 2026, mais à 2027. Voilà. Et en plus, pour finir le tout, il passe une charge de 900 millions d'euros sur l'activité spatiale, L'activité spatiale, c'est surtout les parties satellites et des communications, hein, vous savez, qui avaient fait aussi donc l'objet de provisions donc l'année dernière, où il y a eu en fait donc un audit sur le premier semestre qui a été fait pour faire le tour complet du sujet, et donc il faut repasser une charge de 900 millions d'euros sur ce premier semestre 2024. En raison de certains retards, donc, et de l'augmentation des coûts de certains programmes de télécommunication, de navigation et d'observation.
Eric, ça vous donne envie de monter à bord, honnêtement ?
Bah oui, parce qu'en fait, franchement, le sujet aérospatial, on sait bien que c'était un sujet qu'il fallait régler. Ensuite, le fait de retarder la production du fait du manque de chaîne, du problème persistant avec la chaîne d'approvisionnement, d'accord, mais ça va se résoudre dans le temps. Le sujet, c'est qu'ils ont 10 ans de production, enfin de commandes devant eux, que Boeing s'est complètement décrédibilisé sur le marché, et que eux, donc, ils ont des avions qui sont demandés et qui sur lesquels ils ont un quasi-monopole sur les monovolumes.
C'est presque un problème de riche. Donc,
Bah oui, exactement. Donc ils n'arrivent pas à produire assez. Bon, d'accord, c'est grave, mais bon, on est quand même passé maintenant de 185 à 132. Ça fait une très forte baisse. On est revenu sur des cours très intéressants historiquement. Elle n'est pas vraiment touchée, voire pas du tout, par les problèmes politiques français. Ils ont un problème de riche, ils ont une grande visibilité, c'est fantastique. Donc c'est, pour nous, c'est le moment de renforcer les positions. Je ne dis pas qu'on n'en avait pas avant, mais c'est le moment de renforcer.
Oui. Moins 11,5% ce titre Airbus aujourd'hui. Pour vous, c'est un point d'entrée. On voit qu'Airbus entraîne dans son sillage Safran, par exemple, en repli également. Safran, 4%. Ah, ça sonne chez vous, Eric. Moins 4, donc ce titre Safran. Thales aussi qui recule de 2,5%. Enfin, dans cet univers-là, c'est votre chouchou Airbus ou vous voyez aussi peut-être du potentiel encore un peu plus important ailleurs sur d'autres titres? Je pense à Safran ou Thales qui aussi recule aujourd'hui.
Alors le sujet de Safran, c'est vraiment une extrême, enfin c'est une valeur avec une grande visibilité aussi, hein, c'est clair. Juste elle est beaucoup plus chère qu'Airbus, et donc on a moins en portefeuille et ce retour de 5%, c'est pas pareil que 12%, donc on se précipite pas dessus. Si on peut avoir la moins chère, on essaiera. Et Thales, oui, c'est une belle opportunité aussi, hein. C'est une belle valeur technologique, c'est une entreprise qui revient bien quand même depuis ses plus hauts et sur lequel, bah là, on a toute l'activité défense qui est en pleine progression, qui a été touchée par l'annonce de la dissolution et des différents programmes des gouvernements annoncés notamment par le RN. Donc c'est certainement l'objectif de, enfin c'est certainement intéressant de se réintéresser à Thales.
15h48, ouais. Étienne nous appelle, la Tour Euronext en direct. Vous restez avec nous, Eric, bien sûr. On continue de vous interroger, savoir ce que vous pensez de ce potentiel de marché. On parlera législatif dans un instant, mais Étienne d'abord, donc cette séance dans les yeux et en direct, on en est où sur le CAC 40 cet après-midi?
Écoutez, vous avez un impact très significatif hein, par rapport à la baisse d'Airbus, puisque si Airbus était stable, là, vous aurez un CAC 40 qui perdrait 0,6%, alors que là, il perd un peu plus d'1%. Vous ajoutez à ça la baisse également de Safran de 4%, sachant qu'elle pèse un peu plus de 3% dans l'indice. Donc, c'est vraiment le secteur aérien, aéronautique qui pèse très clairement sur la tendance aujourd'hui. C'est quand même assez marquant de voir que les valeurs défensives, les services aux collectivités sont en nette progression aujourd'hui, alors qu'à l'inverse, vous avez les valeurs cycliques qui pèsent très clairement sur la tendance, hein, comme pour le secteur aéronautique, avec un secteur qui perd un peu plus de 2% aujourd'hui. Un dernier mot sur les volumes d'échanges qui, rappelez-vous, étaient absents hier et qui se reprennent aujourd'hui, grâce là aussi à Airbus, puisque vous avez pas mal de volumes sur cette baisse de plus de 11% aujourd'hui.
Une autre valeur à ne pas rater, alors là, elle est aux États-Unis, c'est l'une des plus grands capis mondiales, Nvidia, qui a perdu plus de 10% depuis ses plus hauts annuels. C'est l'objet de notre question sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur notre site, fil surtout BFM Bourse et notre fil LinkedIn BFM Bourse également. N'hésitez pas, on est sur X, sur LinkedIn et même régulièrement sur Insta. Et cette question qu'on vous pose aujourd'hui, donc après cette baisse assez spectaculaire d'Nvidia en 3 séances, pour vous, est-ce le moment de revenir sur Nvidia, de racheter Nvidia? Est-ce qu'on est sur un point d'entrée pour Nvidia? Oui ou non? Telle est la question qu'on vous pose. N'hésitez pas à répondre, à participer et surtout nous laisser vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans la suite de l'émission. Mais cette question, Eric, on vous la soumet. Est-ce qu'à vos yeux, oui, on est sur un point d'entrée après 3 baisses d'affilée pour Nvidia?
Eh bien non, la réponse est non. La valeur se traite à 21,2 fois le chiffre d'affaires. C'est supérieur à 2 fois l'écart-type historique sur les 5 dernières années. Et donc, je ne serais pas tenté par un retour avant 20 fois, parce que ça, c'est la bande haute de l'écart-type. Donc, ça veut dire 112 dollars. Donc, et 112 dollars, c'est un bon 38 fois en termes de PER, donc c'est déjà pas mal payé. Donc, moi, je ne vais pas à 118 dollars.
Bon, même si Nvidia, qui donc a reculé de plus de 10% depuis ses plus hauts, a perdu là en 3 séances 430 milliards de dollars. Jamais une valeur en 3 séances à peine n'avait perdu 430 milliards de dollars. C'est absolument énorme. On en parlait tout à l'heure aussi avec John Plassard, on en parlera bien sûr tout au long de l'après-midi. On va rentrer au-delà d'Nvidia et puis au-delà d'Airbus aussi qui nous occupe aujourd'hui, Eric, on va rentrer dans la saison de publication. Le mois de juillet approche et avec lui, les publications qui arrivent de ce trimestre. Qu'attendez-vous? Est-ce que cette saison de publication peut apporter un carburant supplémentaire au marché cette fois?
Bah, je pense que ça va être intéressant de suivre effectivement ces publications. D'abord parce que on a un ralentissement de la consommation aux États-Unis en route. Hein. On a entendu ce matin McDonald's qui faisait une offre de grand public pour un repas à 5 $. Oui. Donc ça va être intéressant de savoir un peu l'impact du ralentissement de la consommation sur les entreprises américaines et européennes implantées aux États-Unis. On a aussi donc la Chine qui redémarre pas, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, faire le point. Donc ça va être des points intéressants. Et en Europe, inversement, on attend un point bas industriel. Donc on s'enfonce en cette fin de semestre, enfin fin de trimestre même, ou de semestre, oui. Et donc ça serait intéressant de savoir s'il y a reprise d'activité au second semestre envisagée par les entreprises. Donc on a là le secteur de la chimie, le secteur de la technologie avec l'intelligence artificielle, les services informatiques, le luxe, sur lequel on va être intéressé de savoir si les entreprises nous disent bah voilà, notre carnet de commandes il est maintenu pour le troisième et le quatrième trimestre, l'accélération va se poursuivre après ce deuxième trimestre compliqué. Europe, est-ce que c'est le point bas? États-Unis, quel est l'impact du ralentissement? Voilà, c'est ça le sujet, je pense, de ce deuxième trimestre.
Effectivement, McDo et Burger King qui ont lancé ces dernières semaine au mois de juin, fin mai, début juin, leur repas à 5 $. Hein, c'est ça, on est vraiment dans le low cost. Ouais. Une petite frite, hein, effectivement, chez McDo notamment. Bon, Eric Glenn.
Frite, absolument. Ouais,
on est frustré, Eric. Eric Glenn avec nous régulièrement. Swissac, Banque CV. Merci, Eric, d'avoir répondu à l'appel de BFM Bourse comme régulièrement. Bon après-midi. Le CAC 40 est en repli de 0,8%. Mais Étienne nous le disait, hein, sans Airbus, le CAC 40 reculerait peut-être deux fois moins. Là. Bon, on est toujours à moins 0,8 en ce moment. Parmi les valeurs rescapées, quand même, Eurofins Scientifique, rescapé, c'est un peu exagéré. Le titre hier avait quand même perdu 16%. Eh bien aujourd'hui, Eurofins Scientifique récupère 4% après avoir démenti les accusations à son encontre, plus 4% donc pour cette valeur qui, quand même, sur deux jours, recule toujours de plus de 10%. Si vous avez trouvé Eric Blaine bon, très bon, voire très très bon il y a un instant, n'hésitez pas à le recommander, à en parler à vos amis. Le replay sera disponible dans quelques minutes sur notre application BFM Business.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse, vos questions et les réponses de Julie Cohen-Horton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et vous le savez désormais, il n'y a qu'une seule direction, celle de BFM Bourse, à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au sublime QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et Julie, une question sur une toute petite valeur cotée à Paris aujourd'hui.
Oui, mais qui a son importance, une valeur pour Charles. Charles, il nous a écrit, il s'interroge sur un spécialiste des capteurs de pression destinés au secteur aéronautique et médical. Ce spécialiste, eh bien, c'est Memscap. Memscap qui stagne depuis quelques semaines en bourse. Et Charles, eh bien, il se demande s'il y a encore du potentiel. Eh bien, on va demander à notre spécialiste, c'est Marc-Antoine Barbet pour MCA Finance. Bonjour Marc-Antoine, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Bonjour.
Marc-Antoine, on va faire simple. Quel regard vous portez sur ce titre? Pourquoi il stagne?
Oui, alors peut-être Julie, on va faire un petit rappel sur l'activité de Memscap. Memscap, c'est un des leaders mondiaux sur le marché des MEMS. Alors les MEMS, c'est quoi? C'est des micro-systèmes électromécaniques. En fait, concrètement, la société, elle conçoit et elle vend des semi-conducteurs dans trois principaux secteurs. L'aéronautique, hein, vous l'avez évoqué, pour 2/3 de son activité, et ils ont également une partie sur le domaine de la santé et l'optique. Alors la société a connu un tournant important depuis fin 2022 et la vente de leur usine américaine qui était déficitaire et qui pesait sur leur profitabilité. Et bien justement, cette vente, elle a permis une forte amélioration des résultats en 2023. Donc l'année 2023 a été exceptionnelle pour la société, hein, puisque Memscap a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 51%. La marge opérationnelle est passée de 2,5% en 2022 à plus de 17% en 2023. Et ben forcément, ces bonnes performances opérationnelles ont fait grimper le cours de bourse de plus de 330% l'an passé, parce qu'il a fait une des plus fortes progressions de la place parisienne. Et donc, cette performance exceptionnelle, à un moment donné, malheureusement, ça doit s'arrêter, ou en tout cas ralentir. Et donc, il y a eu la publication du premier trimestre, il y a quelques semaines, qui a marqué un début de ralentissement, notamment dû à l'effet de base, après un premier trimestre 2023 qui avait été de très bonne facture. Mais bon, la publication, elle est loin de mauvaise, hein, puisque la croissance organique a progressé de 4,5%. Et puis surtout, ce qui est notable et qui continue de nous plaire sur le dossier, c'est que les marges continuent de progresser. Donc, c'est plutôt de bon augure pour la fin d'année.
Donc, ça, c'est un petit peu de stabilité, du coup. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue stratégique ?
Nous, on reste confiants à moyen et long terme sur la société, puisque comme je l'évoquais, les marges vont continuer de progresser. Le bilan est très solide, il n'y a pas de dette. Et surtout, l'entreprise a une forte visibilité, puisque la société a des contrats long terme de plusieurs années avec leurs clients. Et puis, vous l'avez peut-être vu, il y a eu quelques mois la signature d'un partenariat majeur dans l'aéronautique avec Megit, qui va leur permettre d'avoir des relais de croissance assez intéressants dans les prochaines années. Donc, nous, pour résumer, malgré la baisse, effectivement, depuis trois mois, ça nous semble plutôt sain après une hausse fulgurante en 2023. Donc, nous, on est plutôt acheteurs. On pense que, justement, c'est un point d'entrée intéressant sur le titre compte tenu de ses fondamentaux.
Merci beaucoup. Voilà cette réponse à notre auditeur. Alors, Julie, vous nous faites une fleur aujourd'hui. Vous nous offrez un cours de bourse. Savoir surfer les vagues, les courbes techniques du marché, c'est la mission de notre portefeuille trading BFM Bourse.
Et notre surfeur à nous, notre roi de la glisse, eh bien, c'est Alexandre Tixier. C'est lui l'analyste de ce portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous et puis merci pour cette métaphore avantageuse.
On va la filer. Alors on le rappelle, si vous voulez vous abonner, eh bien il suffit de scanner, de flasher le QR code qui apparaît sur vos écrans. Bon alors Alexandre, on était quand même sur une bonne lancée. Hier, on avait même renoué un temps avec les 7700 points. Et puis finalement, nouvel atterrissage aujourd'hui. Est-ce que forcément c'est lié à Airbus ? Bref, quels sont pour vous les niveaux de résistance à observé d'un point de vue technique et les secteurs qui, selon vous, empêchent le CAC de vraiment décoller?
Oui, alors effectivement, sur notre CAC, on a un niveau de résistance qui reste à 7900 points qu'on avait enfoncé. Donc c'était le 11 juin, c'était très clair, très net, les volumes et la volatilité qui allaient avec. Niveau secteur, c'est un peu toujours les mêmes ce comportement volatile et erratique, tout simplement parce qu'ils monopolisent l'attention du marché. On a la tech, bien sûr, le luxe, l'équipement automobile, la construction et concessions et les bancaires. Donc ces secteurs, ils vont continuer à évoluer en amplifiant les variations des indices de référence, notamment le CAC. Et de notre côté, on garde précieusement dans notre jeu la carte prudence avec un niveau de cash à 40%.
La carte prudence, vous parvenez néanmoins, Alexandre, à distinguer les titres à l'achat pour vos abonnés?
Alors, distinguer, c'est justement le mot, parce qu'il y a une poignée, ils ne sont pas nombreux, une poignée de titres qui font, on va dire, bande à part. En ce moment, on donne vraiment très peu de lignes à l'achat dans le portefeuille, mais lorsque nous le faisons, c'est vraiment sur des titres qui sont complètement décorrélés de la psychologie générale du marché. Dans cette catégorie, je regarde plus particulièrement un titre comme Gerbé. Gerbé, c'est une société qui fait des produits de contraste pour l'imagerie médicale, donc on comprend bien que côté secteur, donc c'est très particulier, c'est vraiment étanche à la nervosité actuelle du marché. On a une tendance haussière de fond qui, elle, est préservée, pas d'essoufflement majeur, et le titre prend un peu plus de 80% déjà depuis le début de l'année. Donc on a vraiment un dossier qui a des qualités du point de vue d'analyse technique et qui surtout est vraiment très peu pénalisé par l'incertitude politique, la géopolitique internationale et les spéculations sur les politiques monétaires.
Merci beaucoup Alexandre Tixier, l'analyste de ce portefeuille trading BFM Bourse, dont le sublime QR code, effectivement, Julie, apparaît sur les écrans de tous ceux qui ont choisi. Ils ont bien fait de nous suivre à la télévision. N'hésitez pas, si vous nous suivez à la radio, vous pouvez vous rattraper quand même en nous envoyant vos questions, en consultant ce portefeuille trading à l'adresse BFM Bourse. Merci Julie.
Merci Guillaume.
C'est Culture Bourse chaque après-midi. Et dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour. On est en baisse à la Bourse de Paris. Airbus Lanterne Rouge, on y consacre d'ailleurs aussi un article. Cette forte baisse d'Airbus de plus de 10% sur bfmbourse.com où on livre toutes les clés. Et surtout, cet article vous ouvre des perspectives pour la suite et le potentiel de ce titre Airbus. On se retrouve juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.